Ben moi, je dirais que la mode africaine aujourd'hui, c'est une mode vraiment diversifiée. C'est une mode vraiment diversifiée et on est vraiment très, très, très loin du boubou et du wax. Déjà, le boubou, le caftan, il est tellement revisité qu'aujourd'hui, comment dire, on retrouve des boubous en griffe créés par, voilà, par beaucoup de maisons de mode et tout ça africaine, qui ne ressemblent pas au boubou basique, qui font pas tout de suite la pièce folklorique, la pièce hyper culturelle, la pièce trop identitaire où quand tu passes tout de suite, on a l'impression que tu sors tout droit d'un baptême.
Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Africa Fashion Tour. Je vous emmène avec moi à la rencontre de créateurs basés sur le continent africain. Je vous invite à voyager à Abidjan, Dakar ou Bamako pour découvrir les parcours de professionnels talentueux, responsables et ambitieux. Au fil des interviews, je me rends compte que chaque entrepreneur veut contribuer au rayonnement de la créativité africaine sur le continent et au-delà. Ce podcast est un moyen de sortir des clichés du boubou et du wax pour présenter un éventail de tissus, de savoir-faire et de créativité trop souvent sous-représentés. Je suis Ranata Diallo, je suis professeure de marketing dans des écoles de mode parisiennes et je suis également consultante spécialisée dans l'accompagnement de porteurs de projets qui veulent lancer leur marque de mode. En 2017, j'ai assisté à ma première Fashion Week en Afrique et depuis, je voyage régulièrement sur le continent pour aller à la rencontre de ceux qui font la mode en Afrique. Le podcast est le moyen que j'ai trouvé pour partager au plus grand nombre une autre vision de la mode africaine.
Bonjour Ramzi, écoute, je suis ravie de t'avoir avec moi pour l'enregistrement du podcast Africa Fashion Tour. Aujourd'hui, on va échanger avec toi par rapport à ta marque, donc Ramzi Studio. L'idée, c'est que tu puisses nous parler de ta marque, de ta manière de travailler, de ton processus créatif et que tu nous partages un maximum d'informations sur ton univers créatif, tes clients et tes ambitions pour la suite. Donc, pour commencer, comme je le fais toujours avec ce podcast, je vais te demander de me parler de toi et de te présenter.
Hello Ramata, j'espère que tu vas bien. Ben écoute, je suis vraiment honoré d'avoir été invité à participer à ce podcast et de pouvoir partager un peu ma vision, mon expérience avec ta communauté. C'est vraiment un plaisir pour moi et voilà, je suis là, let's go.
Merci beaucoup, c'est moi qui suis honorée de t'avoir. Donc du coup, est-ce que tu peux nous parler un peu de toi ? Je sais que tu es basée à Dakar, il me semble que tu viens de Côte d'Ivoire, donc est-ce que tu peux nous raconter un petit peu qui tu es ?
Alors, je m'appelle Roméo Moukani, je suis Gabonais d'origine et je suis basé à Dakar. C'est vrai que certaines personnes pensent que je suis ivoirien parce que depuis 2019, j'ai eu un associé qui est lui d'origine ivoirienne. Et c'est vrai que les gens se demandent, est-ce que finalement c'est moi qui suis ivoirien, c'est moi qui suis gabonais, je suis sénégalais. Et ouais, c'est quand même drôle parce que c'est bien de laisser quand même du questionnement aux gens. Donc voilà, je suis basé à Dakar et je suis donc le fondateur et directeur créatif artistique de la marque Ramzi, qui est une marque basée au Sénégal.
Ok, et ça fait combien de temps que toi que tu travailles dans l'univers de la mode ? Est-ce que tu as toujours travaillé dans ce secteur-là ? Comment est-ce que tu en es venu à créer cette marque Ramzi ?
Il faut dire qu'à la base, je n'avais pas pour vision de devenir styliste voilà, c'était vraiment pas un rêve d'enfant comme pour beaucoup d'autres personnes. Moi, je suis venu à Dakar de base pour faire des études en gestion. Donc, j'ai fait management et je me suis spécialisé en marketing et communication. Et en 2013, après ma licence, j'ai vraiment commencé à m'intéresser au secteur de la mode, à faire du bénévolat sur certains événements pour voir qu'est-ce que c'était et tout. Donc, j'ai vraiment découvert l'univers de la mode à partir des années 2013. Et en 2015, j'ai lancé ma marque de vêtements. Et il faut dire que c'est vrai que j'avais pas pour objectif de devenir styliste ou avoir une marque de vêtements, mais j'ai toujours aimé tout ce qui est créatif. Et en vrai, c'était vraiment une question d'opportunité. Il y avait un marché qui était là. Je me suis rendu compte qu'il y avait un marché, qu'il y avait des possibilités, que je pouvais avoir de la matière, que je pourrais avoir de la main d'œuvre, et que c'était quelque chose que j'aime créer. Donc je suis vraiment quelqu'un qui est vraiment créatif. S'il faudrait que je me définisse, je me définirais plus comme un artiste créateur et pas juste un créateur de mode, parce que pour moi, aujourd'hui, la mode me permet de pouvoir explorer mes talents en termes de création, mais ça me permet aussi de pouvoir explorer au-delà du vêtement. Donc, à partir de 2015, j'ai saisi ces opportunités-là. Et donc, j'ai lancé Ramsey. Jusqu'en 2019, je faisais uniquement des vêtements pour hommes, parce qu'il faut dire que lorsque j'ai commencé, vraiment, j'étais plus dans une optique de je crée des choses que je peux porter. Donc, je me mettais pas réellement aussi dans la position du client. Qu'est-ce que le client aimerait avoir? Donc, je faisais que des vêtements masculins que moi, je pouvais porter et que je proposais finalement à ma communauté et ceux qui connaissaient la marque à cette époque-là. Et donc, en 2019, je fais la rencontre donc de Yann, mon associé, qui rejoint l'aventure. Et pendant la période de pandémie, on décide de revoir de revoir un peu la marque, de revoir un peu la vision et tout. Et donc, on lance en début 2021 notre première collection 100% féminine. Et donc, c'est à partir de 2021 qu'on devient une marque mixte. Et voilà, jusqu'à aujourd'hui, donc on propose des vêtements et accessoires de mode pour hommes comme pour femmes.
Ok, ben merci d'être revenu un petit peu sur ton parcours en fait initial, et de préciser que voilà, toi tu étais dans l'univers du management, de la gestion, marketing, et que du coup a priori plutôt un profil un peu différent de ce qu'on peut imaginer, puisque toi t'as pas toujours rêvé d'être dans le secteur de la mode. Toi tu dis que t'es quelqu'un de créatif, du coup est-ce que toi, tu es quelqu'un qui dessine, qui coud, quelles sont en fait, comment elle s'exprime en fait ta créativité? Comment tu imagines les pièces et ensuite comment ça, entre ce que tu peux avoir à l'esprit, comment est-ce que ça se concrétise en une pièce en fait?
Non, je trouve que c'est important ce que tu dis, parce que il faut vraiment préciser que je suis autodidacte. J'ai pas fait d'école de mode, j'ai vraiment tout appris sur le tas. C'est vraiment cet esprit de curiosité qui m'a fait finalement découvrir le milieu. Et je pense que voilà, je me suis formé au fur et à mesure en suivant des professeurs en ligne, en essayant d'être encadré par des plus aînés, des gens qui avaient fait des formations en école du mode, donc vraiment par curiosité, en toute humilité aussi, apprendre des choses avec eux, apprendre sur Internet, sur YouTube, et tout ça, des tutos et tout. Et aussi, il faut dire que pour moi, un vêtement, déjà, il arrive à exister dans mon imaginaire. J'arrive à voir le vêtement et j'arrive à me projeter par rapport à la matière que j'ai. Et donc, du coup, je m'imaginais tout de suite quand même un certain, comment dire, un certain chemin, voilà, un certain cheminement pour arriver à concevoir le vêtement. Et parfois, c'était difficile pour moi de pouvoir communiquer à mon couturier, voilà, à mon modéliste un peu ce que je voulais parce que j'avais pas forcément les thèmes techniques, parce que mon modéliste n'était pas ceux avec lesquels j'ai commencé. C'était des couturiers qui n'ont pas eu de formation professionnelle proprement dite. C'est des gens qui ont vraiment appris sur le tas aussi, parce qu'on trouve beaucoup de couturiers ici au Sénégal qui ont des formations, vraiment des formations sur le tas. Donc, qui ne connaissent pas forcément les thèmes techniques, bien que tu peux en trouver qui sont assez performants en termes de, voilà, en termes de couture, en termes de résultats, en termes de finition, mais n'ont pas forcément la connaissance technique. Donc, du coup, il y avait ce fossé au niveau de la communication entre le couturier et moi. Donc, du coup, c'était vraiment difficile, mais je savais exactement ce que je voulais. Et ce qui m'a poussé, moi, à apprendre à coudre, parce que c'était possible, réalisable dans ma tête, et je savais que si je pouvais coudre, si je pouvais connaître les bases, j'étais sûr que je pouvais faire, voilà, que je pouvais réaliser certaines œuvres que j'arrivais pas à réellement expliquer. Et donc, du coup, c'est ça qui m'a poussé à m'auto-former. Et après ça, voilà, aujourd'hui, je dessine parce que de base, quand j'étais plus jeune, ma passion, c'était vraiment le dessin. Donc, ça, c'est quelque chose qui est un bon atout pour moi, ce que je sais. Je sais dessiner, donc je sais dessiner, je sais coudre, je sais couper. Donc, du coup, que ce soit au niveau du patronage, au niveau de la coupe, au niveau de la couture, au niveau du dessin, au niveau de, voilà, un peu sur tous les fronts, voilà, je suis assez, comment dire, je suis assez autonome. Mais c'est vrai que c'est pas forcément mes spécialités. Voilà, je suis pas forcément spécialiste en couture, je suis pas forcément spécialiste en coupe, mais je connais vraiment, voilà, les bases et tout ça, et je sais exactement ce que je veux. Donc, si un couturier ne sait pas ce que je veux, je peux coudre, le montrer ce que je veux. Voilà, je serai peut-être pas le plus rapide en termes de couture, mais au moins je sais ce que je veux et je peux le faire. Donc ça, c'est l'avantage. Et c'est quelque chose que j'ai vraiment appris, voilà, petit à petit.
Ok, bah écoute, à nouveau, je tiens à te remercier de partager ça avec nous parce que c'est important en fait de suivre ton cheminement, ton parcours sur ton compte Instagram en fait assez naturellement, tu partages certains croquis, certains dessins. Donc c'est pour ça que je posais la question. Je sais que tu dessines, mais je savais pas forcément quel était ton parcours et c'est intéressant de préciser voilà que tu es autodidacte et que c'est par passion et avec détermination qu'à un moment donné tu t'es dit bah moi, j'ai cette idée en tête de cette pièce que j'ai envie de créer. J'ai pas envie d'avoir d'obstacles pour pouvoir la réaliser, donc je vais tout mettre en œuvre pour savoir tout faire, de manière à m'assurer que cette idée que j'ai en tête, elle va pouvoir se concrétiser. Donc, toi, est-ce que t'es aujourd'hui, du coup, depuis le temps que tu as créé la marque, tu as pu constituer une équipe avec laquelle
Exactement.
tu es à l'aise?
Oui, petit à petit, j'ai constitué une équipe. C'est vrai que j'ai pas une grande équipe. Et généralement, c'est vraiment les gens, ils pensent qu'il y a une grosse équipe derrière. On me dit non, non, il n'y a pas une grosse équipe. Il y a vraiment un petit noyau. Et après, il y a, si on est sur des projets, sur des événements ou voilà, autre chose qui demande plus de personnes, ben, il y a des intervenants qui viennent, que j'appelle des amis de la maison. Donc, mon équipe, elle est vraiment composée de, déjà, il y a moi, il y a Yann, donc mon associé. Après, vraiment, en atelier, on a les couturiers qui sont là. J'ai trois couturiers. Et j'ai la team créative. La team créative, c'est des stagiaires, en fait, qui sont venus pour apprendre le métier, pour découvrir la mode. C'est des jeunes qui m'ont contacté parce qu'ils sont passionnés de mode et qui voulaient savoir un peu comment ça se passait, qui voulaient avoir leur propre expérience et tout. Et c'est des jeunes hyper créatifs qui sont venus, qui ont donc eu à passer des petites périodes de stage chez moi, et qui finalement, même s'ils sont plus stagiaires, ils sont toujours attachés à la marque. Donc, quand je suis sur des projets, je fais appel à eux pour établir ensemble les stratégies de communication, pour établir ensemble un peu le programme créatif, comment on peut créer tel contenu, qui peut faire quoi. Ouais, voilà, on essaie vraiment de d'établir ensemble une certaine feuille de route, même si je suis celui qui, voilà, qui coordonne tout et qui finalement, je suis le cœur de la machine, mais ils sont là et ils s'engagent, voilà, au pourcentage qu'ils peuvent, voilà, par rapport à leurs activités réciproques. Mais ils sont toujours prêts à, voilà, à mettre la main à la pâte pour pouvoir réaliser, parce qu'en même temps, ça leur fait toujours de l'expérience et, comment dire, ils se sentent juste naturellement rattaché à la marque et ça lui fait plaisir de toujours se réaliser et de réaliser quelque chose avec la marque. Donc c'est un peu comme ça que je fonctionne et pour moi aussi c'est une bonne chose de toujours être ouvert aux jeunes, parce que c'est des choses que si moi j'avais eu, j'aurais peut-être appris plus vite, j'aurais peut-être fait moins d'erreurs. Voilà. C'est bien d'être encadré, de se sentir encadré, pas juste sur le plan technique, mais aussi sur le plan, que ce soit le plan émotionnel, que ce soit, voilà, vraiment le mindset, c'est important de pouvoir encadrer les jeunes par rapport à ça, mais aussi les diriger sur, sur eux aussi, la structuration de ce qu'ils veulent faire comme business, de ce qu'ils ont comme projet. Donc, c'est important pour eux de se sentir encadré, compris et orienté. Et donc, j'essaie de le faire et je pense que c'est ça qui fait en sorte aussi qu'on arrive à se renouveler, parce qu'on a toujours des idées fraîches, on a toujours ce vent frais là au sein de la team. Donc, c'est un peu comme ça que nous sommes organisés. Voilà.
Okay. C'est super intéressant de partager ça. Je sens que tu as un rôle de mentor vis-à-vis des plus jeunes, des stagiaires et que c'est quelque chose qui te tient à cœur en fait, et c'est le fait que tu endosses ce rôle de mentor qui fait que eux, quand ils ont la disponibilité et du temps, ils sont contents de revenir travailler avec toi.
Oui, il faut dire que oui, c'est vraiment ça. Ça fait vraiment partie de ma personnalité. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup partager et de manière naturelle, en fait, les gens ont toujours cette tendance de se confier en moi, de se sentir en sécurité. Donc, du coup, je suis quelqu'un qui pousse beaucoup les gens vers le haut, qui encourage beaucoup, je suis pas parfait. Parfois, je donne des conseils, des choses que moi, j'arrive pas à mettre en pratique, mais je sais exactement que c'est ce qu'il faut pour eux et tout ça. Donc, je suis quelqu'un de très, je suis no filtre, en fait. Je suis quelqu'un qui partage vraiment, parce que je pense que quand quelque chose appartient à quelqu'un, personne ne peut lui voler ça, en fait. Donc, c'est vraiment pas méchant de pouvoir donner des secrets, de pouvoir donner des tips un peu aux gens et tout ça pour que les gens puissent avancer. Parce que, en vrai, s'ils ont besoin de ça et que tu es la personne qu'il faut pour leur donner ce dont ils ont besoin, fais-le, en fait. C'est juste la récompense, c'est juste de les voir réussir, avancer, et ça fait du bien. Et après, c'est cette personne qui pourra demain t'aider, t'ouvrir des portes et tout ça. Donc, c'est un peu moi ma philosophie, et je pense que oui, ces jeunes-là vraiment, ils se sentent vraiment compris, pris au sérieux et tout ça. Donc, ils n'hésitent pas à toujours revenir et voilà, ils sont là.
Ok, donc c'est intéressant, c'est vraiment ce que moi j'aurais tendance à appeler du leadership collaboratif, c'est-à-dire que ils vont venir auprès de toi pour aller chercher du conseil, pour être guidés, pour être accompagnés, et toi dans ta démarche, t'es vraiment ouvert à ça, et t'es dans de la générosité, dans ta manière de transmettre et de partager des compétences, parce que tu te dis qu'en fait, ce que tu donnes, quoi qu'il arrive, ça va revenir d'une manière ou d'une autre, et que ça va faire grandir tout le monde, en fait.
Exactement, exactement. C'est vraiment l'esprit Ramzi, et toutes les personnes avec qui j'ai eu à travailler sur le long terme, c'est des personnes qui ont exactement le même état d'esprit, et toutes les personnes avec qui j'ai collaboré et avec qui je suis toujours en contact, c'est des personnes qui ont vraiment cet esprit-là de partager et d'avancer ensemble. C'est vraiment ça l'esprit Ramzi, c'est vraiment le partage, et je pense que aujourd'hui, notre communauté, surtout sur Instagram, peut ressentir ça. On a toujours cette tendance à partager et ça a été important pour moi de comprendre à un moment donné que la marque me ressemblait et que finalement, voilà, les gens, ils ont besoin de finalement ressentir ces traits, ces caractéristiques d'humanité aussi dans la marque. Et du coup, voilà, on essaie vraiment de partager au maximum. Et je pense que c'est même le contenu, le type de contenu où il y en a plus d'interactions, c'est vraiment le contenu où les gens se retrouvent en pleine immersion dans le processus, dans les réalités, qu'ils ont, se rendent compte que voilà, derrière un succès, il y a pas mal de larbeurs aussi et que ça, c'est juste une partie de l'iceberg qu'on montre parce qu'on ne peut pas montrer tous les dessous parce que ce n'est pas tout le temps que c'est cool. Mais voilà, c'était important pour nous de donner ces caractères-là humains à la marque de manière à ce que les gens se retrouvent vraiment dans ce qu'on fait au-delà du vêtement.
Ok, donc là, ce que je comprends, c'est que dans ton storytelling, dans ta manière de communiquer sur Instagram, tu tiens à ce que on voit les produits avec des beaux mannequins, on voit un certain nombre de célébrités, d'artistes qui vont porter les produits. Donc, tu as toute cette partie-là qu'en général, toutes les marques, en fait, elles vont partager. Mais toi, la brique qui est importante pour toi que tu intègres, c'est aussi de partager ton travail avec tes équipes, de partager un peu les coulisses de manière à ce qu'ils puissent voir que en plus du vêtement, en plus de finalement les pièces de collection, il y a l'esprit Romzy comme tu l'appelles.
Exactement, exactement. C'était vraiment important pour moi de comprendre ça parce que moi je suis quelqu'un qui généralement n'aime pas être en avant. Donc du coup, pendant des années, j'ai toujours voulu laisser juste mon travail parler pour moi et vraiment pas mettre mon visage. Je suis quelqu'un, vraiment, je poste rarement, même sur mes comptes personnels, je poste rarement du contenu où je suis mis en avant. Mais c'était important que les gens sachent aussi qui est derrière et finalement comment ça se fait. Parce que je trouve que après, on se différencie pas des autres marques. Voilà, on fera des belles choses, comme d'autres marques font des belles choses, en fait. Mais finalement, c'est quoi, qu'est-ce qu'il y a derrière, pourquoi aujourd'hui les gens par exemple nous envoient des messages où on a vraiment l'impression de les avoir boostés. C'est vraiment important parce que je me suis rendu compte que à travers la marque aussi je peux avoir un impact à une plus grande échelle. Ça veut dire qu'aujourd'hui la manière dont je peux booster ces jeunes qui viennent avec moi, qui ont la possibilité de rentrer en contact direct avec moi, je peux le faire à travers juste un contenu. Voilà, partager juste aux gens que c'est possible, même avec peu de moyens pour certaines situations, c'est possible d'atteindre certains objectifs. Et donc, d'avoir des retours comme ça des personnes qui ne sont pas dans le secteur de la mode, mais qui ont des passions et qui ont des projets, tout ça, de les sentir vraiment encouragés et tout, juste à travers le contenu qu'on a fait. Moi, je pense que c'est vraiment important. Et demain, c'est des personnes qui peuvent, sans aucun doute, être des clients de la marque. Parce qu'aujourd'hui, même si quelqu'un pense qu'il n'a pas le pouvoir d'achat pour acheter un vêtement ou un accessoire chez nous, il peut vraiment se sentir impliqué à travers ce que nous avons fait au-delà du vêtement. Et je suis sûr que ces personnes-là, dans quelques années, pourront être des clients. Et pour moi, ma marque, l'objectif, c'est vraiment pas d'être une marque qui est là juste pour se faire de la thune, pour vendre. Mais j'aimerais vraiment arriver à mettre une marque qui puisse avoir un impact dans la vie des gens. Et que même après, quand je serai plus là, que les gens se sentent vraiment impliqués et que les gens ont vraiment qu'ils aient vraiment l'impression d'avoir cette responsabilité de continuer à porter le flambeau. Donc c'est vraiment important pour moi de mettre certaines bases maintenant qui dans 10 ans, 15, 20 ans pourront continuer à être pérennisées par des gens qui auront vraiment été impactés au-delà de l'art, de l'artistique, au-delà de l'art, au-delà de... Voilà, que vraiment il y ait un impact social, un impact humain, voilà. Et pour moi, c'est vraiment important parce que ça, c'est un peu comme une mission de vie maintenant. Et voilà, donc c'est un peu ça que j'essaye de faire avec, voilà, avec les moyens que j'ai de pouvoir vraiment apporter quelque chose au-delà du vêtement.
Ok, super. Merci d'avoir partagé ça. C'est important que d'entendre ça, en fait, parce que parfois, on peut avoir l'impression que derrière une marque, bah, il y a juste finalement des ouvriers, des artisans qui font le produit, mais on voit pas forcément l'humanité ou l'âme qu'il y a derrière. Et c'est important que tu prennes le temps de partager à quel point pour toi c'est important. Et j'aime bien le fait que tu soulignes que toi, c'est pas forcément ton truc d'être face caméra à parler de toi et de te mettre en avant, mais tu te rends compte que ça permet de créer un lien avec une audience, des potentiels consommateurs, et en fait, effectivement, c'est ce que tu disais, ils vont accrocher à ta personnalité, ils vont accrocher à ton message, et à un moment donné, ils vont se dire, bah, en fait, j'ai envie de m'habiller en Romzy parce qu'en fait, je connais cette personne et j'apprécie son état d'esprit, donc c'est vraiment une démarche qui est intéressante. Toi, aujourd'hui, tu fais de l'homme, tu fais de la femme. Pour pouvoir promouvoir tes collections, est-ce que tu vas participer à des Fashion Week en Afrique, à des événements, ou est-ce que tu vas organiser tes propres événements?
Je veux dire les deux. Alors, la première option, vraiment participer à des Fashion Week. C'est vrai qu'au début, je voulais vraiment participer à des Fashion Week, absolument à tout prix participer à des Fashion Week. Mais en vrai, c'est un investissement. Il faut faire une collection, et après, pour certains événements, il y a des participations, il faut payer des billets, voilà. Sauf si éventuellement, l'organisation veut que tu sois absolument dans leur événement et qu'ils prennent en charge certaines choses ou la totalité, voilà, des frais. Ça, ce sera encore mieux. Mais dans l'option où tu prends tous les frais, voilà, c'est vraiment un investissement et on a besoin de sentir qu'il y a un retour sur investissement. Est-ce que, en participant à ces Fashion Week là ou à ces événements, est-ce qu'on rencontre des acheteurs? Est-ce qu'on arrive à avoir vraiment un gros coup de projecteur sur le travail qu'on fait? Parce que c'est vraiment beaucoup d'efforts derrière une marque aussi. Et puis il faut vraiment garder les pieds fermes pour pouvoir tenir une entreprise. Donc, après 5, 6, 7 ans de dur labeur et que tu arrives à résister, et là, je parle juste pour moi, quand tu vas à un événement international au-delà de tes frontières ou bien même un événement international dans ton pays, tu as besoin quand même de sentir qu'après participation, il y a vraiment un retour sur investissement, que ce soit au niveau de la communication, que ce soit au niveau de la notoriété vraiment comment l'événement a pu redorer encore la notoriété de ta marque, ou bien qu'à travers cet événement, tu as pu rentrer dans un réseau où tu peux rencontrer des clients, où tu peux rencontrer des acheteurs. Et on a vraiment besoin de ça aujourd'hui. Je pense que c'est ça qui manque à certains événements. Ce qui fait que depuis quelques années, je participe très peu à des événements. On me demande pourquoi tu participes pas, mais parce que je vois pas de retour, en vrai. Et pour moi, c'est des investissements. Je préfère investir, moi, sur un événement à moi, où je mettrai en place ma propre stratégie de communication, où je sais que je fais cet événement, pas forcément pour avoir des retours, comme des ventes ou autres, mais ça me permet, par exemple, de communiquer sur moi ma vision. Parce que c'est important pour moi de me réaliser en tant que marque créative. Ça, c'est quelque chose que beaucoup de créateurs ici au Sénégal ne font pas. C'est que ils vont pas claquer quelques millions pour organiser un événement juste pour réaliser en fait leur vision, juste pour marquer le pas par rapport à quelque chose de bien précis. Moi, par exemple, récemment, j'ai fait un événement, un défilé privé suivi d'une exposition. Pour moi, c'était important parce que c'était une forme de réalisation. C'était pour moi important de pouvoir marquer le pas vu que j'étais en train de faire une transition par rapport à l'image. Je changeais mon logo, donc c'était vraiment important pour moi de marquer le pas. Mais c'était un investissement et je sais pourquoi je l'ai fait. Je sais que pour la marque, c'est important de se réaliser de cette manière. D'autres créateurs ne feront pas ça. D'autres créateurs se diront, bah, les sous, je préfère prendre les sous et investir sur des matières, de nouvelles collections et vendre encore plus. Mais pour moi, en fait, c'est des choses qu'on peut pas acheter. Et si je trouve pas ça dans un événement lambda, ben ça sert à rien pour moi d'y participer. Donc du coup, je peux participer à des événements vraiment lorsqu'on m'invite et que les conditions sont réunies, je peux participer. Si l'événement aussi a vraiment une portée en termes de visibilité, je peux participer. Et si c'est pas s'il y a vraiment pas cette approche là, ben non, je préfère me concentrer sur sur ma marque, sur ma production, sur mes ventes que d'investir à perte.
Ok, ben je te remercie d'avoir clarifié ce point. C'est vrai que en fait, c'est pas évident pour les designers, et je pense que c'est à travers le monde que d'assumer les frais de la participation à des événements, des fashion week ou des événements de présentation de collection. On se rend pas toujours compte, mais c'est un budget logistique et puis c'est un budget aussi de création de collection pour l'événement. Et c'est sûr que si derrière on est assuré de rencontrer des acheteurs ou qu'il y a un showroom qui permet de vendre des collections, bah c'est parfait. Mais si c'est pas forcément prévu dans l'organisation de l'événement, bah c'est vrai que c'est de la communication, mais c'est pas forcément un investissement qui est rentable. Donc toi, t'as tenu à organiser ton propre événement. Ce que t'évoquais, c'est que tu as fait le rebranding de ta marque, tu as changé le logo, donc ça s'appelle toujours Ramsey, mais tu as décidé d'adopter de nouveaux codes. Qu'est-ce qui a fait que t'as fait cette réflexion-là, en fait, et t'as décidé de faire un événement, du coup, unique de ta marque pour pouvoir un peu annoncer le renouveau de la marque?
Ben, il faut dire que c'était une question qui était là depuis un bon moment. C'est qu'on s'est demandé qu'est-ce qu'on a hormis notre style, hormis les codes de la marque par rapport à nos silhouettes, à nos couleurs, par rapport un peu à l'univers créatif dans lequel on est. Mais on avait besoin d'avoir quelque chose de visuel qui, même dans un vêtement hyper simple, tout de suite fait référence à la marque. On avait besoin d'avoir un imprimé, besoin d'avoir vraiment quelque chose de visuel, que même si on a une chemise toute blanche, dès qu'on a ce petit détail, on sait que c'est du Ramsey. Ça, c'était important pour nous parce que il était difficile pour moi, surtout au début, de pouvoir concevoir des vêtements prêts à porter, vraiment simples. C'était difficile pour moi de faire des basiques ou des choses qui peuvent vraiment aller à monsieur et madame tout le monde. Et du coup là, on avait la réponse à cette question. C'est que si on avait un imprimé, si on avait notre bijou ce poids bordelé qu'on a créé, qu'on appelle le Duganzi, ça a été le premier jet, en fait, visuel. Aujourd'hui, on se retrouve à faire des vêtements où les clients nous disent il faut absolument qu'on ait le bijou, il faut absolument qu'on ait ce poids baoulé, parce que ils se sont rendus compte que même avant qu'on ne communique officiellement sur ça, les clients se sont rendus compte que tous nos vêtements avaient ce bijou là et c'était un peu comme la référence. Donc du coup là on a lancé l'imprimé et c'était important pour nous de communiquer sur ça et de dire que si vous voyez cet imprimé, si vous voyez ce masque, c'est que c'est Ramsey. Quel que soit l'endroit où vous voyez ça, c'est que c'est Ramsey. C'est comme si aujourd'hui on va te parler de Versace, si on voit la méduse, on sait forcément que c'est du Versace. Si aujourd'hui on voit un imprimé Louis Vuitton ou Fendi, on sait que on sait. Donc, on avait vraiment besoin de ça. Et donc, du coup, l'idée, c'était de faire un événement physique où on aura vraiment nos clients habituels, où on aura les amis de la maison, où on aura vraiment toutes ces personnes-là qui font partie de vraiment la crème artistique d'Akaroise. là, et c'est des gens qui connaissent la marque, qui ont un échange personnel avec la marque. On n'a vraiment pas cherché à prendre des influenceurs inconnus de la maison. On a vraiment cherché à prendre des gens qui connaissent la marque et qui aussi dans leur, comment dire, qui dans leur domaine respectif, en fait, sont des personnes qui ont une certaine influence et des personnes qui ont une certaine notoriété. Et c'était important pour nous, en fait, de pouvoir partager ce moment avec ces personnes parce que ce sont aussi des ambassadeurs de la marque. Donc, pour nous, c'était un événement vraiment privé. C'était vraiment un événement à huis clos, un événement de célébration parce qu'on a célébré le nouveau branding, on a célébré aussi la créativité parce que c'est vraiment les créatifs qui étaient là. Et c'était important pour nous de faire ça. Et oui, donc, comme je disais, c'est des choses, par exemple, que certaines marques ici, ils vont vraiment pas faire parce qu'ils se diront que voilà, c'est plus un investissement qu'autre chose. Mais pour nous, c'est important parce que même dans 4-5 ans, quand les gens reverront par hasard des visuels, des vidéos, des choses sur les réseaux, sur Internet et tout, ce sera vraiment, voilà, c'est important parce que ça fait partie de l'histoire de la maison. Et aujourd'hui, on voit de plus en plus de personnes qui sont à l'extérieur, qui découvrent nos contenus sur les réseaux, qui viennent nous écrire. Il y a pas mal de, voilà, il y a vraiment pas mal de gens, que ce soit en France, au Nigeria, en Afrique du Sud, il y a pas mal de gens qui prennent contact avec nous, qui viennent féliciter le travail, qui découvrent ce qu'on a fait avant, qui, voilà. Donc, pour nous, finalement, c'est, voilà, les retours commencent à venir et c'est important pour nous d'avoir passé cette étape-là. Comme ça.
Ok, bah écoute, je te dis bravo en fait, parce que là, du coup, tu prouves bien en expliquant les retombées qu'il y a eu avec cet événement que tu as mis en place et ce rebranding de la marque, en partageant, en faisant cet événement et en partageant en fait des éléments de photos et de vidéos sur le compte Instagram de la marque, sur les réseaux sociaux, bah il y a un impact, il y a des retours, il y a des personnes qui sont intéressées et en fait, c'est à travers les DM, en fait, hein, les messages privés que l'on reçoit parce que ce sont évaluer, des messages, ouais. J'imagine, d'organisation, de personnes qui veulent collaborer, qui veulent proposer des partenariats, qui ont envie de proposer quelque
exactement,
chose de concret.
Exactement.
Donc, et du coup, c'est très important et
ça,
intéressant.
Et ça, tu vois, on l'a pas forcément, ouais. Et sans là pas forcément en participant à des événements de mode voilà ici par exemple à Dakar ou bien ailleurs, parfois tu n'as juste pas en fait la possibilité d'avoir un focus sur toi qui puisse vraiment voilà faire un déclic et qui peut voilà il n'y a pas ça, c'est vraiment difficile de trouver un événement où on crée un contenu où vraiment les médias s'intéressent particulièrement. Il faudrait que tu aies vraiment marquer le pas grâce à une collection qui elle-même voilà fait parler, sinon il y a pas vraiment un programme bien mis en place en fait. Ça veut dire que tu vas à un événement, c'est vrai il y a la notoriété de l'événement, mais après tu as il y a un programme quand même. Vous savez que vous avez des ventes, vous savez que vous avez des salons, vous savez, donc tu y vas, tu sais qu'il y a un programme qui pour te donner des opportunités. Après, c'est à toi de saisir les opportunités et c'est à toi aussi de laisser ton travail parler aussi pour toi. Mais quand un événement n'a pas déjà ça de base, ben ça sert à rien d'y participer. Et aujourd'hui, nous, on se dit, c'est vrai, on a dépensé énormément d'argent pour cet événement-là, mais ça nous, honnêtement, ne compte plus. Quand tu arrives à un niveau, tu comptes plus l'argent parce que en vrai, tu sais que c'est un besoin pour la marque. Tu sais que c'est vital pour la marque. Et tu sais que tôt ou tard, en fait, il y aura des retours positifs. Donc, du coup, c'est vrai que les retours sont déjà là, en train de venir petit à petit. Mais pour nous, c'était important de le faire. Et voilà, quoi.
Et toi, tu penses que ça va être quelque chose que tu vas faire de manière récurrente, en fait, ce fait de se dire une fois par an quand tu sors une collection, tu vas plutôt avoir tendance à faire un événement. Après, tu peux bien sûr avoir des invitations pour des événements, mais te dire un événement, les amis de la marque Romzy, ben voilà, une fois par an, on va se retrouver pour un événement un peu huis clos, mais qui permet de.
Oui, j'aimerais bien. J'aimerais bien faire ça. C'est vrai que quand j'ai commencé Ramataz, peut-être que tu sais pas, mais j'avais lancé en fait un concept Romzy Fashion Men. À la base, c'était vraiment le défilé de lancement de la marque en 2015 et j'avais invité donc des créateurs à venir me soutenir en présentant leur collection, en première partie avant que je fasse la présentation de la mienne. Et du coup, vu que je faisais homme à l'époque, en fait, j'avais donc invité des créateurs qui devaient présenter des vêtements hommes aussi et quelques-uns qui avaient des collections mixtes. Et du coup, ça a été le premier événement au Sénégal où on avait vraiment mis en avant la mode au masculin. Et j'ai fait cet événement pendant 4 ans. C'était devenu vraiment l'événement de mode pour les hommes. Et je l'ai fait, et c'est vrai que je le faisais à fond propre et tout ça. Jusqu'à ce que ce soit quand même assez lourd pour moi. Et après, c'était dans une optique de plus de communication, de pouvoir m'implanter sur le marché local et tout ça. Donc, c'était important parce que aussi, comme je te disais, j'ai fait des études de marketing et de communication. Donc, pour moi aussi, c'était aussi une stratégie aussi pour pouvoir imposer la marque aussi au Sénégal. Et donc oui, aujourd'hui, si mon événement personnel peut devenir annuel, oui, ce serait bien, tant que ça répond à financièrement à mes prévisions, ça va. Et si j'ai des éventuels partenaires, ce sera encore l'idéal. Mais je pense que c'est important de pouvoir innover sur l'événementiel aussi. Il faudrait arriver à faire partager aux gens en fait des expériences. Et pour moi, c'est ça. Pour moi, une chose, c'est vraiment une expérience. Pour moi, une chose, c'est pas juste une présentation. Moi, j'ai toujours eu des papillons dans les yeux quand je vois des défilés de grandes maisons de couture, de grandes maisons de luxe. Et même des maisons qui sont, même des marques qui sont pas des marques de luxe, mais qui arrivent à vraiment partager de l'émotion, à vraiment créer, on a un espace de temps, en fait, juste, arriver à faire voyager les gens dans leur univers. Et ça, c'est important pour moi parce que, ma marque, c'est tout un concept, c'est tout un univers, voilà. Donc, pour moi, c'est important de communiquer ça aux gens. Et je pense que si j'arrive à atteindre cet objectif, les gens automatiquement deviennent des ambassadeurs à leur échelle en fait de la marque. Ça veut dire que même s'ils font juste un petit post pour dire waouh, voilà, on a vécu une expérience magique et tout, on a vraiment vécu quelque chose de spécial, vraiment j'adore. C'est vraiment une manière de pour moi c'est une manière d'être ambassadeur d'une certaine manière en fait. Donc du coup voilà, si je peux le faire chaque année, je le ferai sans hésiter. Hein.
Écoute, je te remercie encore une fois de partager ça. Effectivement, je ne savais pas que tu avais organisé des événements et que c'était des événements dédiés à la promotion de la mode masculine à Dakar. Mais en tout cas, je trouve que c'est vraiment très riche en fait ce que tu partages là sur l'importance de créer son événement et aussi le fait que en termes de retombées, tu vas avoir des retombées de notoriété et tu vas aussi avoir des retombées asseoir la notoriété de la marque et de créer de la confiance entre toi et tes clients. Et on sent bien dans ce que tu racontes que oui, tu as fait des études de marketing, de com, de management et que du coup, dans ton approche, on sent vraiment que tu as compris que la manière dont tu vas communiquer, dont tu vas présenter tes produits, elle a un impact direct sur la force du lien que tu vas créer en fait avec une audience. Et une audience, quand elle se souvient de toi, si elle n'achète pas la première fois, à un moment ou un autre, elle reviendra, quoi. Donc, et ça, je sens que c'est vraiment quelque chose que toi, t'as vraiment intégré dans la manière dont tu veux développer ta marque. Ce dont je voulais qu'on parle maintenant, c'est un peu tes clients, en fait. Le style Romzy, en fait, que ce soit l'homme ou que ce soit la femme, ça s'adresse à qui, en fait? Quand tu dessines, en fait, quand tu réfléchis à une collection, c'est pour habiller quel genre de profil? Ce sont des gens qui portent les tenues pour quelle occasion? Toi, tu imagines les choses comment, en fait?
Il faut dire en fait que moi, à la base, je n'avais pas ciblé une clientèle bien précise. En fait, la clientèle, elle s'est faite naturellement. Ça veut dire que les gens qui ont répondu positivement à ma créativité ont commencé à dessiner un certain persona. En fait. Donc, c'est au fur du temps que je me suis rendu compte à quoi ressemblait ma clientèle. Aujourd'hui, je peux dire que ma clientèle, c'est vraiment des hommes et des femmes d'une tranche assez moyenne, on va dire entre 30 et 44 ans. Donc, si on peut descendre les plus jeunes, on va dire 26 ans par là, c'est vraiment en moyenne, jusqu'à 50 ans si on veut vraiment aller plus haut. Mais généralement, c'est 30, 40. 44, 45. C'est des hommes et des femmes qui ont un potentiel d'achat plutôt moyennement élevé. Il faut dire que nos produits ne sont pas hyper accessibles sur les coûts. C'est des personnes indépendantes qui généralement ont un bon pouvoir d'achat. C'est des gens qui sont très ouverts aussi à la créativité. C'est des gens qui généralement sont créatifs d'une certaine manière. Donc, on retrouve beaucoup des gens qui sont dans des domaines diversifiés mais créatifs, que ce soit de l'architecture, que ce soit des domaines liés à la beauté, que ce soit... Il y a aussi d'autres personnes qui sont vraiment dans des domaines totalement différents, mais il faut dire que c'est toujours des gens qui recherchent des pièces originales, qui recherchent des pièces bien finies, qui recherchent des pièces créatives. Voilà, c'est des gens qui pour certains sont intéressés par le côté créatif de la marque, mais qui ne sont pas forcément prêts à porter des pièces hyper créatives, mais qui voudront, par exemple, avoir une pièce de la marque parce qu'ils se sentent beaucoup concernés par notre créativité, mais qui voudront porter juste la marque. Je ne sais pas un peu si tu vois un peu ce que je veux dire. C'est que c'est des gens qui ne vont pas porter des pièces fortes, mais qui vont porter des pièces assez simples, mais ils savent en fait qu'ils portent la marque. En portant la marque, ils ont l'impression de porter en fait l'esprit créatif de la marque. Voilà, il y a ça. Et on a vraiment une toute autre communauté qui vraiment, c'est des personnes qui veulent porter la pièce déception pour le grand jour, pour un événement bien particulier. Il faut dire que de base, vraiment, l'esprit Romzy, c'est vraiment le vêtement qui ne passe pas inaperçu. C'est vraiment les couleurs hyper, hyper voyantes. C'est vraiment les pièces hyper structurées. Voilà, donc on reste quand même une marque assez imposante visuellement. Mais après, on a des pièces prêtes à porter. On a des pièces qui sont vraiment super simples. Et là, avec notre imprimé, on pourra avoir des pièces hyper basiques, mais qui restent tout de même des pièces Romzy dès qu'on les voit. Donc cette cible-là, je peux la définir un peu comme ça. Donc vraiment, des jeunes, indépendants, socialement, financièrement assis, qui recherchent vraiment du créatif, de l'originalité et du travail bien fini, bien fait. Et c'est des gens qui, pour la plupart, voyagent beaucoup. Voilà, c'est des gens qui ont vraiment une culture, qui sont vraiment très métissés culturellement. C'est des gens qui sont très attachés aussi à la culture aussi africaine, ou qui sont vraiment impactés, intéressés par la culture africaine, parce qu'il faut dire que Romzy reste une marque africaine qui a pour objectif de promouvoir l'héritage culturel africain. Donc, je peux dire que c'est vraiment ça. Après, on a beaucoup d'artistes, on a beaucoup de chefs d'entreprise. Voilà, c'est un peu ça, un peu notre persona, on va dire.
Ok, super. Donc, du coup, ce que j'entends, c'est que tu vas avoir des personnes qui sont plutôt assez extravagantes et qui, quand elles ont un grand événement, elles vont vouloir porter tes pièces les plus fortes, en fait, les plus visuelles. Et à côté de ça, tu as des amoureux de la marque, qui vont pas oser porter des choses aussi extravagantes, mais parce que ce sont pas forcément des artistes qui sont en représentation, mais qui vont quand même aimer avoir une pièce de ta marque avec un détail un peu original, et ça leur permet de se différencier en fait des autres personnes, d'avoir un peu un style à part, sans être... Et donc, ce que je comprends, c'est dans ta collection, il va y avoir des choses très extravagantes et des choses qui sont plus basiques. Mais bon, je pense que le basique de Romzy, c'est quand même travaillé, quoi. C'est pas tout simple.
Oui.
Voilà, c'est pour ça que...
Exactement. Le basique de Romzy, c'est tout travaillé, oui. Ça a été difficile pour moi de travailler. En fait, il y avait un concept store, parce que nous, on travaille beaucoup avec des concept stores. Vraiment, dans notre démarche, en fait, généralement, tout ce qui est vraiment prêt à porter, on les vend en concept store, des concept stores avec lesquels on est partenaire. Et pour chaque concept store, on étudie un peu la clientèle et on essaye de s'adapter à cette clientèle tout en gardant vraiment notre identité, de manière à ce que si un client de ce concept store se retrouve dans un autre pays ou bien se retrouve dans un autre concept store où on expose aussi nos produits en vente, ils peuvent se retrouver. Mais ce concept store en particulier, ça a été difficile de pouvoir vraiment faire des basiques. Et à cette époque, on faisait seulement des vêtements masculins. Et vraiment, les hommes de ce concepteur, c'était les hommes qui aimaient vraiment le basique du basique. Ça veut dire la petite chemise avec deux traits, et c'est tout. Et nous, c'était un supplice de pouvoir imaginer, en fait, des tenues aussi simples. C'est vraiment pas dans nos cordes, en fait, de vraiment faire quelque chose de hyper simple. C'est vraiment difficile pour nous. Ça veut dire que nous, vraiment, notre basique, il y a toujours quelque chose de travaillé, il y a toujours, la matière a toujours des, il faut toujours qu'il y ait des petits détails, même de près, que la matière ait certains reliefs, qu'il y ait certains motifs, voilà. C'était vraiment difficile de pouvoir travailler quelque chose de hyper basique. Et pour cette clientèle-là, c'était difficile parce que vraiment, c'était des hommes d'un certain âge, quand même, il faut dire, qui vraiment cherchait la petite tunique, la petite chemise hyper basique, voilà, avec juste des belles finitions, une belle matière, et puis basta. Et ça, par exemple, nous, c'était difficile de le faire parce que, voilà. Mais oui, je pense qu'au fur et à mesure, les gens qui vraiment se retrouvent dans la marque, je pense que même dans nos basiques à nous, vraiment, il y a toujours des petits détails, mais ils se retrouvent et ils aiment bien ça.
Ok, donc c'est très intéressant ce que tu expliques là, c'est ton travail de partenariat avec des concept stores où tu vas créer des collections qui vont s'adapter à ton consommateur. Et donc finalement, tu as réussi à créer la tunique, la chemise basique, mais dans sa version Romzy, donc qui est revisitée avec quand même des éléments et des détails originaux qui te permettent de garder l'ADN de la marque Romzy et en même temps de satisfaire cette cliente qui est en recherche de produits relativement sages, on va dire.
Exactement, c'est ça.
Ok. Et donc, les concept stores avec lesquels tu travailles, ils sont basés à Dakar et dans d'autres villes ?
Oui. Moi, je travaille avec des concept stores qui sont un peu dans la sous-région. Donc, on a Dakar, Abidjan, Bamako, Conakry, en Guinée-Conakry, en Gambie aussi. Donc, on a aussi un concept store là-bas. Au Gabon aussi, on a un concept store là-bas. Et voilà, là, on essaie de plus s'orienter vers les pays africains anglophones et aussi l'Occident. Et c'est vraiment l'objectif, c'est d'avoir des concept stores qui nous représentent, mais aussi qui représentent bien la marque, pas seulement en termes de présence géographique, mais aussi en termes d'éthique, en fait, un peu. On cherche des concept stores qui, même dans leur manière de communiquer, ou bien un peu dans l'ADN de la boutique, voilà, qu'on retrouve des créateurs qui sont un peu dans la même mouvance. Voilà. Parce que je pense que pour chaque boutique, en fait, pour chaque boutique a un concept bien particulier, que ce soit lié même à la décoration, l'esprit un peu de la boutique, je pense, attire un certain type de client. Et du coup, pour nous, c'est important de pouvoir cibler. des concept stores qui nous ressemblent. Bon, après aussi, quand on n'a pas ciblé des concept stores, ça t'aime à nous contacter et puis voilà, on essaye, on voit si ça passe. On essaie de s'adapter aussi, voilà, à la demande. Et par rapport à ça, on voit comment les choses avancent.
Et du coup, toi, quand tu travailles avec des concept stores comme ça, tu vas produire des quantités qui vont être mises à disposition, en fait, dans ces différents concept stores. Donc, ce sont des collections différentes dans chaque concept store ou c'est la même collection que tu vas...
Ça arrive qu'on ait un peu la même mouvance, mais généralement, c'est des collections différentes. Ou c'est un système de turnover. Parce qu'après, tu peux mettre... Je veux dire, quoi, tu peux mettre 100 pièces dans une boutique. Je dis un prix comme ça. Hein. Tu peux mettre 100 pièces. Je dis un nombre comme ça, pardon. Tu peux mettre 100 pièces dans une boutique et tu vends 80. Donc, les 20 pièces restantes, elles vont revenir à la maison. Donc, du coup, faudrait la faire tourner et essayer de la vendre ailleurs. Donc, du coup, c'est ce qui est bien, en fait, quand finalement, tu gardes ton identité. Ça veut dire que même si... D'un concept store à un autre, les besoins, les envies des clients varient. Si toi, tu arrives à proposer quelque chose adapté à leurs besoins, mais qui reste identitaire quand même, s'il y a des invendus dans une boutique, tu peux facilement switcher dans une autre boutique et les clients se retrouvent. Parce qu'il y a toujours un peu le même fil conducteur. Et c'est bien aussi de parfois un peu surprendre les clients avec des choses... voilà, auxquels ils ne sont pas habitués. Par exemple, il y a un concept store à Libreville au Gabon avec lequel on travaille. Quand on avait envoyé notre tout premier stock, je pense que la vendeuse disait « Ah ouais, ça va marcher, ça risque pas marcher, ça ressemble pas trop à nos clients et tout, et tout, et tout. » À la fin du mois, quand la vendeuse nous a fait un peu le recap des ventes et tout. Nous, honnêtement, par rapport à ces retours et tout ça, on s'est dit, ce concept store, je pense qu'on va pas trop durer là-bas et tout ça. Mais à la grande surprise, vraiment, on avait vendu presque tout le stock et elle-même était étonnée, mais ils adorent et tout et tout. Ben ouais, c'est important de proposer des choses aussi aux gens parce que voilà, parfois, ils ont envie d'autres choses, mais s'ils ont que X ou Y proposition, ils vont juste faire avec ce qu'ils ont. Donc, du coup, c'est un peu comme ça que nous, on fonctionne. Donc, il peut arriver que là, par exemple, avec la sortie des Dugandi, le mois prochain, dans tous les concept stores, on n'aura que du Dugandi. Voilà. Là, par exemple, on aura des collections un peu différentes, mais toujours dans le même esprit. Et voilà. Et après, si on n'est pas sur une collection particulière, ben, on produit de manière, différente. Il faut aussi prendre en compte que je travaille beaucoup avec les matières présentes sur le marché local. Donc, du coup, il peut arriver que je tombe sur des matières super intéressantes qui, moi, m'inspirent à créer certains modèles. Et, on peut avoir que des stocks hyper réduits. Et là, par exemple, on va retrouver une petite collection capsule uniquement dans un concept store et pas dans un autre. Donc, ça fonctionne aussi comme ça.
Ok, donc tu fonctionnes vraiment. Et justement, là, c'est intéressant que tu parles des matières. Toi, du coup, tu travailles avec des matières du coup, qui sont sur le marché local. Ça va être quel type de matière que tu vas utiliser? Est-ce que c'est des matières qui sont faites par des... Tu fais des mélanges avec peut-être des matières qui sont faites par des artisans du Sénégal ou d'autres pays d'Afrique que tu vas mixer avec d'autres matières. C'est quoi tes choix en termes de matières utilisées?
Moi, je travaille beaucoup. Je travaille beaucoup au feeling, honnêtement. C'est vrai, je travaille avec des artisans, surtout des tisserands. Donc, on travaille aussi avec les tisserands. Du coup, on fait beaucoup de mix avec des matières importées et les pagnes tissées par les artisans ici au Sénégal ou en Guinée-Conakry, parce qu'on aime beaucoup le pagne tissé de Guinée-Conakry. Pardon, pas de Guinée-Conakry. De Guinée... comment on appelle cette Guinée? Bissau, voilà, Bissau, exactement. Des Guinée-Bissau, on aime beaucoup leur pagne tissé. Donc, du coup, on travaille beaucoup avec le pagne tissé sénégalais et bissau-guinéen. Et là, on mixe avec d'autres matières. Mais ça, c'est vraiment de manière exceptionnelle. On travaille beaucoup sur des matières qui sont importées. C'est des matières qui viennent vraiment en fin des séries. Et on peut avoir du Givenchy, on peut avoir des cotons, on peut avoir, voilà. C'est vrai qu'on travaille aussi avec des cotons d'ici, du Sénégal aussi, qui sont fournis par une usine de coton ici, qui se trouve à Kaolack. On travaille aussi avec leur coton. Mais généralement, c'est sur le marché des produits importés, des textiles importés que l'on retrouve des rouleaux de fin de série qui sont vraiment intéressants. Et moi, je suis quelqu'un qui crée avec la matière. Ça veut dire que je peux voir une matière qui me plaît. J'ai aucune idée de ce que je veux faire avec, mais je vais juste acheter parce que ça me plaît. Et quand il faut penser à créer des modèles et tout ça, ben je prends les matières et j'essaye de les mettre ensemble par rapport aux palettes de couleurs, par rapport un peu à, comment dire, au mood un peu que la matière voilà, me donne. S'il y a des motifs, la texture, les couleurs, tout ça. Donc, j'essaye vraiment de les aligner et je fais des combinaisons. Et avec ces combinaisons, je crée des modèles. Donc, on peut réinventer ou réinterpréter des basiques ou des best-sellers avec des nouvelles matières, ou on crée carrément de nouveaux modèles et voilà les mêmes boutiques. Généralement, on n'a pas le temps de faire de créer des visuels, de faire des photos, des vidéos pour poster sur les réseaux, ce qui fait que il y a beaucoup de pièces en prêt-à-porter qui se retrouvent que dans les boutiques et les gens, c'est vraiment les clients de ces boutiques-là qui bénéficient finalement de nos créations. Mais sur les réseaux, on communique beaucoup sur ce que nous on appelle les collections communication. C'est-à-dire, c'est vraiment des collections capsules qui mettent en avant vraiment l'esprit de la marque, mais on ne retrouve pas forcément voilà toutes les déclinaisons qu'on peut avoir en concept store de nos créations. Donc ça, c'est vraiment un peu mon process de création.
Ok, donc ce que je comprends là, c'est qu'en fait, toi sur Instagram, c'est vraiment un outil que tu utilises comme un média pour pouvoir promouvoir ta marque. Mais si on a envie de découvrir les pièces qui sont à vendre, en fait, faut vraiment aller dans les concept stores. Et aujourd'hui, tu es dans des concept stores, mais tu n'as pas de boutique Romzy. Ou alors, on peut venir dans ton atelier pour voir.
Non, j'ai pas de boutique Romzy, exactement. Beaucoup de gens demandent où se trouve. On a de plus en plus cette question, où se trouve votre boutique, où se trouve votre boutique. Non, on n'a pas de boutique physique, pas encore, mais on a vraiment beaucoup de concept stores dans lesquels, vers lesquels on redirige un peu les gens quand ils sont sur Dakar, mais s'ils sont dans d'autres capitales, on les redirige vers les concept stores et là ils découvrent les produits qu'on a. Et c'est vrai que Instagram, on utilise vraiment Instagram comme comme un canal de communication. Et c'est vrai qu'on échange beaucoup avec nos clients. Et il y a des pièces qu'on crée sur mesure pour les clients, même à travers les réseaux. Ça veut dire que les gens, ils viennent, ils adorent, ils disent oh, on aime ça. Est-ce que vous avez des pièces que on leur propose des pièces? Est-ce que vous pouvez avoir un peu dans ce style et tout ça? Et on crée des pièces par rapport à ça. Et puis après, quand il y a des gens qui sont sur Dakar et qui veulent absolument avoir quelque chose ou qui veulent absolument nous voir, il y a des gens qui vont en boutique, qui voient des choses, ils disent « Oui, on a vu les boutiques, on a vu les trucs, c'est très beau, on a acheté. » Mais est-ce que c'est possible de vous rencontrer? Il y a vraiment des gens qui veulent nous rencontrer. Je me rappelle, j'étais à Marseille, il y a une de nos clientes qui vit sur Marseille. Elle voulait absolument me rencontrer, même si c'était pour prendre un verre. Et ça, c'est des choses vraiment qui marquent, en fait, quand tu te rends compte que les gens, ils s'attachent pas juste à la marque. Et parfois, les gens, ils savent pas qui est derrière la marque. Pourtant, on communique beaucoup. Aujourd'hui, je me mets assez en avant et tout ça. Mais j'ai rencontré, pendant mon événement récemment, j'ai rencontré la responsable d'un concept store avec lequel on travaille en Guinée-Conakry. En fait, elles sont deux et tout le temps, on discute, on communique et tout, mais beaucoup par message. Et du coup, elles ont toujours cru que Romzy, c'était soit deux femmes ou une femme et un homme. Mais jamais c'était imaginé que c'est que des hommes, en fait. Et du coup, quand elle est venue à l'événement et tout, elle dit, ah ouais, mais où l'autre personne et tout. J'ai dit, non, Yann, il n'est pas là et tout, machin. Elle dit, ah bon, c'est un homme aussi et tout. J'ai dit, oui. Et donc, les gens, ils sont curieux, en fait, de venir. Ils veulent voir, en fait, qui est derrière. Ils veulent passer du temps avec nous, prendre un verre, discuter de leurs idées folles. Voilà, il y a des gens qui viennent. Parfois, chez Romzy, ils se disent que bon, c'est la seule marque qui peut créer des choses fous. Il y a des gens comme ça qui viennent parce qu'ils se disent que leurs idées sont trop folles. Donc, du coup, nous, là, on peut s'adapter à tout. Donc, c'est un peu ça, en fait. Voilà, c'est ça.
Ok. Donc, du coup, toi, tu gardes toujours dans ta manière de développer ta marque une opportunité de faire du sur-mesure et de laisser libre cours à la créativité. Et ce que tu dis là, c'est que les gens, quand ils viennent te voir, c'est pour avoir des pièces extravagantes, très pointues, très riches. Ils vont pas venir te voir pour faire un basique, en fait. C'est vraiment, j'ai un super événement, j'ai envie d'avoir une pièce qui va faire que tout le monde va me regarder. Je vais voir Romzy.
Exactement, exactement. C'est vraiment ça. Et même... Et ça se retrouve même dans nos pièces prêtes à porter. C'est juste quelque chose qui est... C'est au-delà de vraiment l'aspect physique. En fait, Romzy, c'est vraiment toute une énergie, je veux dire. Parce qu'en vrai, en fait, il y a des pièces qu'on fait, qu'on vend en boutique. Vraiment, non, nous, on le voit, on se dit vraiment, ça, c'est la pièce que, voilà, à une cérémonie, à une soirée, un truc, voilà, toutes les femmes peuvent les porter, elles peuvent se trouver belles et voilà. Mais les retours qu'on a parfois, c'est vraiment, en fait, j'ai porté votre tenue, j'étais la personne de la soirée. Tout le monde était sur moi, tout. Donc, vraiment, c'est... On se rend compte que même quand on essaie de faire quelque chose de basique, en fait, juste la matière avec laquelle, par exemple, on aura travaillé, ce sera une matière déjà qui va s'imposer d'une certaine manière. Moi, j'ai été à Bamako et je suis allé rendre visite un peu pour la première fois dans un concept store dans lequel j'expose mes produits. Et ce jour, il y avait un événement, il y avait une vente privée là-bas et tout ça, voilà. Et donc, j'arrive et je commence à discuter avec, avec la propriétaire de la boutique et tout. Et puis là, il y a une cliente à qui elle dit, ah, mais tiens, et tout, cette cliente-là, elle achète beaucoup vos créations et tout ça. Et elle présente, mais la dame, elle m'a dit, Romzy, vous savez pas ce que vous avez fait dans ma vie. Je suis allé à un mariage, j'ai porté votre boubou. C'était moi la mariée ce jour parce que vraiment tout le monde me donnait que des... Et on a eu tellement de retours comme ça. Il y a des retours comme ça. Il y a une influenceuse avec qui aujourd'hui on a vraiment un rapport très amical, mais elle ne connaissait pas la marque du tout. Elle a acheté des vêtements, elle a voyagé, et dans l'événement à lequel elle est partie, elle a dit, quand elle est sortie de la chambre d'hôtel jusqu'à ce qu'elle est rentrée de la soirée, les gens n'ont pas cessé de la complimenter sur la tenue. Donc, du coup, c'est des retours comme ça, c'est dit, waouh! C'est vraiment, en fait, c'est vraiment un esprit. Romzy, c'est tout un esprit, en fait. C'est vraiment une énergie, c'est vraiment de la créativité. Et c'est important pour nous, finalement, de se rendre compte qu'on réussit à communiquer ça à travers le vêtement. Et c'est vraiment important.
Ok, ben, de toute façon, bien sûr, à coller à l'épisode, je mettrai les liens vers le compte Instagram et il y aura certainement un article, en fait, qui permettra de voir les photos, parce qu'effectivement, avec de l'audio, on entend tout ce que tu nous dis et en fait, on a envie de voir, mais du coup, je ferai bien le job de mettre des liens pour qu'on puisse voir les photos et pouvoir visualiser en fait cet esprit Romzy. Ce que j'aurais aimé partager avec toi, c'est aussi la question liée à ce qu'on peut appeler comme étant la mode durable, éco-responsable, le fait de mettre en avant des savoir-faire africains. J'ai l'impression que c'est une valeur aussi qui est importante pour toi. Qu'est-ce que tu peux nous dire, toi, par rapport à ça?
Ben, je peux dire par rapport à ça que déjà, l'un de nos engagements, c'est vraiment de faire la promotion de l'héritage culturel africain. C'est quelque chose qui m'a toujours passionné, en fait, de voir des artisans travailler et arriver à grâce à quelque chose qu'ils ont hérité généralement de leur père, de leur oncle. Voilà, généralement, c'est vraiment quelque chose qui est transmis de génération en génération, un savoir-faire qui reste attaché à notre culture et de se rendre compte que c'est pas juste de l'héritage, mais c'est juste magnifique, en fait. Donc, du coup, moi, c'est quelque chose qui me parle énormément. Et donc, j'ai décidé de faire de ma marque un canal par lequel on peut, en tout cas, le maximum possible, faire la promotion de ce savoir-faire-là. Donc, je travaille avec beaucoup d'artisans, que ce soit des artisans qui travaillent sur la maroquinerie, qui travaillent sur l'ameublement, qui travaillent sur la bijouterie, que ce soit des artisans aussi textiles. Et je travaille beaucoup avec eux. Et je suis quelqu'un, en fait, je peux découvrir... parfois, je dis aux gens que c'est juste l'argent qui manque. Hein. J'ai dit sinon, le talent et les idées, les projets, Dieu a donné déjà. C'est là, en fait. C'est juste les opportunités, les possibilités qui manquent, en fait. C'est ça. Parce que, en vrai, moi, je peux voir quelqu'un, un ébéniste ou, quelqu'un qui fait de la poterie. Une fois, en fait, que c'est quelque chose qui est vraiment artisanal et qui soit vraiment culturel, je suis juste, je suis ennuyé par la chose. Et en voyant les œuvres, tout de suite, en fait, mon côté créatif commence vraiment à cocher des cases, à vraiment essayer de créer des puzzles. Et j'arrive à créer des choses comme ça. J'arrive à imaginer... ça veut dire que du travail d'un ébéniste, je peux imaginer tout de suite des accessoires, je peux imaginer des chaussures, je peux imaginer des sacs, je peux imaginer des petites pièces qu'on peut incruster sur des vêtements. Donc pour moi, en fait, vraiment tout ce qui est fait m'inspire énormément. Et je pense que à travers ce que je fais, j'essaie de mettre ça en avant. Aujourd'hui, on a sorti notre première série de sacs qu'on a appelé la collection Punzi. Donc, c'est vraiment des sacs qui sont faits qui sont faits artisanalement par une technique Touareg. Donc, à la base, c'est vraiment des artisans qui font des meubles pour d'aménagement, qui font des meubles pour de rangement, des boîtes de rangement, qui font un peu tout ça. Et moi, en fait, j'étais juste au niveau de... Je suis passé devant l'artisan, je me suis arrêté et j'ai commencé à regarder ce qu'il faisait. Et c'est à travers son histoire que j'ai été juste impacté par finalement son travail, parce qu'il y a eu du sens, parce que derrière, il y a vraiment tout un héritage, il y a des significations, chaque tampon, une signification, les outils qu'ils utilisent sont fabriqués dans certaines circonstances et tout ça. Donc, c'est des choses que les gens ne peuvent même pas imaginer. Et pour moi, en fait, c'est important pour moi de raconter ça à travers les créations que je fais, parce que je pense que c'est important d'avoir déjà un premier palier auquel les gens sont habitués. Ça veut dire que si les gens voient un sac chez Ramzi, ça ne va pas les étonner. Ils vont voir un sac qui va dire « Waouh, Ramzi a fait un très beau sac ». Mais à travers ce sac, maintenant, je pourrais raconter l'histoire derrière. Je pourrais raconter comment j'ai connu l'artisan. Je pourrais raconter quelle histoire de l'artisan, qu'est-ce que signifie son art, qu'est-ce que signifie telle ou telle chose. Pourquoi j'ai choisi finalement cette forme-là, cette couleur. Il y a un peu tout ça que je peux raconter derrière. Et finalement, je raconte une partie de notre histoire. Et pour moi, je trouve ça important. Et comme je te disais, je suis quelqu'un qui aime beaucoup partager. Et donc, je me rends compte qu'à travers ma marque, je peux partager des histoires, je peux partager, raconter, un peu notre culture et tout ça. Et c'est vraiment l'un de nos engagements, c'est vraiment faire la promotion de l'héritage et du savoir-faire culturel africain. Et voilà.
Ok, super. Bah, c'est un super bel engagement et c'est intéressant ta manière de raconter comment
tu cherches à intégrer les artisans dans ton processus créatif et que tu es vraiment dans quelque chose de vertueux qui est le respect du travail original, initial de l'artisan que tu vas intégrer dans ta manière de travailler. Ce que je voulais évoquer, en général, c'est comme ça que je finis un petit peu les podcasts, c'est cette notion de mode africaine. En fait, on a tendance, en tout cas quand on a un regard extérieur et souvent un regard qui vient de l'Occident. Moi, comme tu le sais, je suis basée en région parisienne, je suis née à Paris. Et donc, quand je discute avec des étudiants en école de mode, avec des professionnels du secteur de la mode, mais qui sont des Français ou des Européens, la mode africaine, parfois pour eux, le raccourci, c'est le wax et le boubou. Et en dehors de ça, ils ne connaissent pas ou on n'a pas beaucoup d'informations autres, en fait, sur ce que peut être la mode africaine. Et du coup, c'est pour ça, en fait, que moi, j'ai mis en place ce podcast. C'est pour vraiment donner un maximum d'informations, promouvoir et sortir de cette information restreinte qui est boubou et wax, qui est très limitée par rapport à tout ce qui peut être fait en termes de créativité. Donc, si toi, tu devais parler de mode africaine ou si tu devais essayer de le définir, qu'est-ce que tu dirais?
Moi, je dirais que la mode africaine aujourd'hui, c'est une mode vraiment diversifiée. C'est une mode vraiment diversifiée. Et on est vraiment très, très, très loin du boubou et du wax. Déjà, le boubou, le caftan, il est tellement revisité qu'aujourd'hui, on retrouve des boubous en griffe créés par beaucoup de maisons de mode et tout ça africaines, qui ne ressemblent pas au boubou basique, qui font pas tout de suite la pièce folklorique, la pièce hyper culturelle, la pièce trop identitaire où quand tu passes tout de suite, on a l'impression que tu sors tout droit d'un baptême, au Sénégal ou au Mali. Non, on est vraiment très loin de ça, en fait. C'est qu'aujourd'hui, les créateurs africains arrivent à être sur tous les paliers, que ce soit le côté très tradit ou le côté hyper tradit moderne ou le côté hyper, ouvert culturellement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut avoir des pièces créées par des créateurs africains, made in Africa, qui ne font pas tout de suite référence à l'Afrique sur visuellement, en fait, parlant. Mais quand on va regarder les matières sont faites en Afrique, sont faites par des artisans africains. Il y a vraiment un savoir-faire africain. Il peut avoir des détails qui font vraiment référence à l'Afrique. Il peut avoir des motifs, des significations qui font vraiment référence culturellement à l'histoire du continent et tout ça, mais tout en étant sur une pièce qui en elle-même visuellement, dès qu'on la voit d'un premier regard, ne fait pas tout de suite Afrique, ne fait pas tout de suite boubou. Donc je pense que aujourd'hui on arrive à avoir des créateurs qui mettent en avant le savoir-faire artisanal, vraiment le handmade. Vraiment, on peut retrouver des pièces qui sont faites, mais avec des heures, des centaines d'heures de travail, tout est fait à la main. On peut retrouver des pièces couture, on peut trouver des matières faites à la main et tout ça. Donc, je pense qu'aujourd'hui, l'Afrique, sur la scène internationale de la mode, a son mot à dire et propose des créations qui peuvent se porter, que ce soit au Japon ou aux États-Unis, sans aucun problème. Et je pense que, qu'on a compris ça et qu'aujourd'hui, on s'impose d'une certaine manière. Moi, je dirais que c'est peut-être les accompagnements qui manquent dans certains pays, que ce soit en termes de communication, que ce soit en termes de soutien financier, je pense. Mais sinon, on a vraiment tout le savoir-faire, on a vraiment la créativité, on a des écoles de mode qui sont de plus en plus performantes, et je pense que aujourd'hui, on n'est plus dans le cliché de la tenue folklorique. Non, je pense qu'on n'est plus dans ça. Et aujourd'hui, d'ailleurs, la preuve, c'est que beaucoup de grandes maisons de couture, etc., viennent en Afrique vraiment puiser le savoir-faire. Si aujourd'hui, Chanel fait son premier défilé au Sénégal, c'est parce que ben voilà, ils reconnaissent qu'il y a vraiment un potentiel ici avec la galerie 19M qui a été inaugurée en janvier et tout ça. Je pense qu'il y a énormément d'échanges, de savoir-faire parce que effectivement, on a vraiment un héritage culturel qui soit là et qui peut être exploité par les Africains eux-mêmes et arriver à les vendre à l'international sans que ça fasse cliché africain. Je pense qu'on est très loin du cliché voilà, mode africaine. Je pense qu'on est très loin de ça. Il y a certains qui sont restés dans ce contexte-là, faire la petite tenue en wax, parce que ça plaît toujours aux gens d'avoir le côté un peu exotique, mais on n'est plus dans ça, en fait. Donc, je pense qu'il faut pousser un peu la réflexion plus loin et regarder vraiment qu'est-ce qui s'est fait le mieux, parce que franchement, le niveau est très élevé par rapport à ce qui s'est fait, que ce soit dans les capitales africaines, francophones ou anglophones. Honnêtement, on a vraiment, vraiment, vraiment rien à envier à l'Occident et tout ça en termes de, voilà, en termes de créativité, en termes de, voilà, un peu tout ça.
Ok, très bien. Mais écoute, ce sera le mot de la fin. On n'a rien à envier à l'Occident. Je trouve ça super intéressant de terminer comme ça. Je te remercie beaucoup pour le temps que tu m'as accordé. Donc, on enregistre à distance. Toi, tu es à Dakar. Moi, actuellement, je suis à Maurice. Donc, on espère qu'avec cet épisode, vous aurez voyagé avec nous. Je mettrai bien, du coup, des liens avec avec ton compte Instagram, bien sûr, et la liste des concepteurs dans lesquels la marque est présente, de manière à ce qu'on puisse découvrir la marque et surtout acquérir des pièces. Merci encore.
Merci Ramata.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que cette interview vous a plu. Pour soutenir mon initiative et donner de la portée au message des créateurs du continent, je vous propose 3 actions. Abonnez-vous sur Spotify ou Apple. Partagez l'épisode à 3 de vos amis. Prenez le temps d'évaluer le podcast et de mettre 5 étoiles. Merci encore et à très vite en Afrique ou ailleurs.